Messieurs, dames, bonsoir. Merci d'être là. Merci à Marcus, surtout d'être là pour nous parler pendant un moment du garçon, donc son nouveau livre qui vient de sortir à la rentrée. Marcus s'était proposé, chose exceptionnelle, de nous lire un petit peu un passage pour nous faire rentrer dans les choses. Donc je vais le laisser faire. Je vais même lui prêter mon livre des fois qui ne se souviennent pas exactement de tout.
Bonsoir. Donc je vais vous lire 300-400 pages à peu près. Non, je vais vous lire le début du roman en fait. Le jour n'est pas encore levé, et ce que l'on aperçoit tout d'abord au loin sur la lande est une étrange silhouette à deux têtes et huit membres, dont la moitié semble inerte. Plus dense que la nuit elle-même, et comme évoluant en transparence derrière ce voile d'obscurité. La paupière fronce à cette apparition. Doit-on s'y fier? On se demande. On doute. À cette heure, les gens dorment, dans les villes, dans les villages, ailleurs. Ici, il n'y a rien ni personne. Si la lune se montrait, elle n'éclairerait qu'un paysage de maquis, brut, désolé, une terre indéfrichée. Qui va là? Quoi? On l'ignore. On scrute avec une attention accrue cette ombre insolite pour tenter de l'assimiler à quelque espèce connue et répertoriée. Mais il n'y en a guère qui ferait l'affaire. À quel ordre appartient-elle? De quelle nature est-elle? On s'interroge. On la suit du regard. On la voit qui avance, courbée, l'échine déformée par une énorme protubérance, l'allure lente et quasi mécanique dans sa régularité. On devine, on sent qu'il y a dans cette démarche quelque chose qui tient à la fois du désespoir et de l'obstination. On pense à une tortue géante dressée sur ses pattes arrière, à un fabuleux coléoptère de la taille d'un jeune ours. On s'inquiète vaguement, on chasse ses pensées, mais elles reviennent. Car après avoir passé en revue les divers représentants de la faune courante, en vain, on est bien obligé de lâcher les monstres, les vrais. Légendes et mythes remontent. On convoque le bestiaire des créatures primitives, archaïques, imaginaires, fantasmagoriques. On puise à la source de nos craintes les plus anciennes, de nos peurs les plus profondes. On frissonne. Et tandis que notre esprit bouillonne et se tourmente, là-bas, la silhouette bossue continue de progresser, pas à pas, sur un chemin qui n'a jamais été tracé. On se rapproche. L'œil s'est aiguisé, il est capable à présent de trancher. D'un seul coup, il scinde l'entité en deux, deux corps distincts, l'un sur l'autre, l'un chevauchant l'autre comme lors de ces parodies de joutes qui égayent les cours de récréation. Si un tournoi a eu lieu, il est terminé, les adversaires tous disparus, vainqueurs ou vaincus, on ne sait. Ainsi donc, ils sont deux. Le mystère s'éclaircit quant à la nature de l'apparition. Mais curieusement, on n'en est pas soulagé pour autant. On ne respire pas mieux. Au contraire. Ils sont deux, mais qui sont-ils? Que sont-ils? Que font-ils? Où vont-ils? On n'a pas fini de s'interroger. Celui qui sert ici de monture a la stature d'un garçon de 14 ans, sec et dur. Les côtes, les muscles, les tendons saillent à fleur de peau. Et par-dessus, de vagues morceaux de tissu, un assortiment de frusques vraisemblablement constitués sur le dos d'un épouvantail. Il va sans chaussures, les plantes de ses pieds ont la texture de l'écorce, du chêne liège. Ses cheveux ruissellent sur ses épaules et sur son front tel un bouquet d'algues. Il est en nage, il luit, émergeant tout juste, dirait-on, de l'océan originel. La sueur lui sale les paupières au passage, puis s'écoule en suivant le chemin des larmes. Une goutte se prend parfois dans la jeune pousse de duvet qui ourle sa lèvre supérieure. Ses yeux sont noirs, plus noirs que le fond des âges, où palpite pourtant le souvenir de la prime étincelle. C'est l'enfant. Celle qui pèse sur ses reins n'a rien à chevalier sinon la triste figure. Une femme. Ce qui reste d'une femme. Les reliques. Sous les loques, des bouts de bras qui dépassent, des bouts de jambes, la chair qui semble fuir du tas de hardes comme la paille d'une vieille poupée. Elle ne pèse pas lourd en vérité, mais c'est un poids presque mort, ballottant à chaque foulée. Son crâne repose entre les omoplates du garçon. Ses paupières sont closes, Elle a le teint cireux, la peau flétrie des pommes sauvages tombées de l'arbre. On lui donne 60 ans. Elle n'en a pas 30. C'est la mère.
Merci beaucoup, Marcus. Avant de revenir peut-être sur le passage que tu viens de lire, d'une façon générale, sans déflorer l'histoire, le garçon est donc raconte le périple, le récit d'un jeune garçon de 1908 à, aux années 30.
38, exactement.
Toi qui, jusque-là, as pour l'essentiel écrit des textes qui se passaient ici et maintenant, où tu te colletais, on pourrait dire, avec la réalité du monde dans ce qu'elle a de plus quotidien, qu'est-ce qui a fait envie, si envie il y a eu, de te projeter dans un roman que d'aucuns pourraient, même si j'aime pas du tout la connotation, appeler roman historique, enfin de décaler historiquement, de parler d'un temps passé, et comment tu as construit une résonance avec aujourd'hui ?
Alors, il y a plusieurs choses, sans doute, qui m'ont donné envie de me projeter dans le passé. Il y a d'abord, on avait parlé un petit peu déjà, l'envie d'une autre tonalité. Parce que je fonctionne beaucoup en termes de tonalité, de sonorité, de rythme, enfin des termes plutôt musicaux. Donc j'avais envie en fait, d'un autre type de langage. Quand on raconte des histoires qui se passent dans le monde contemporain, on a une certaine tendance justement à utiliser un langage aussi moderne, contemporain, etc. Et moi, j'avais envie d'autre chose. Donc, j'ai le fait de me plonger dans une histoire qui se déroule 100 ans en arrière, ça m'obligeait à utiliser d'autres expressions, d'autres termes, d'autres tournures de phrases, un autre vocabulaire. En tout cas, c'est... Et du coup, ça donne une tonalité et une sonorité différentes. Donc j'avais envie de ça. C'était aussi pour moi sans doute une forme d'exotisme un petit peu, dans le sens exotisme... non pas spatial, mais temporel, du coup. Puisque, comme tu l'as dit, je n'ai pas l'habitude d'écrire ce genre d'histoire. Donc, plutôt que de partir dans un pays lointain, j'ai préféré, d'une certaine manière, rester dans notre pays, enfin, en tout cas pour une grande partie de l'histoire, rester dans notre pays, mais à une époque différente. Peut-être aussi que, justement, le fait d'avoir beaucoup parlé de notre monde, de notre époque, et puis surtout le fait de vivre à notre époque, fait qu'à un moment donné, j'en ai eu un peu marre. Enfin, marre dans le sens où, j'avais besoin de prendre l'air, disons. D'échapper un petit peu à pas mal de choses qui sont un peu pesantes, je trouve, dans notre monde.
De la même façon, donc, tu viens de nous lire cette scène d'entrée donc, qui est à la fois, quelque part, une mort, la mort de la mère, mais aussi une naissance au monde du garçon qui donc, se retrouve seul et donc va sortir de son état qui, jusque-là, était donc... sa mère était la seule personne, le seul être humain qu'il avait rencontré jusque-là. Ce garçon donc est mutique, il va être mutique face au monde, face aux hommes, face à l'amour, face à la mort, à la guerre. Ce choix d'un personnage mutique, quelles contraintes ça t'a imposé en termes d'écriture, notamment en termes de dialogue ? C'est en fait au final un livre où il y a assez peu de dialogue, il y en a, parce qu'il y a d'autres personnages, on verra tout à l'heure comment la parole est assumée en fait au final, essentiellement notamment dans la relation d'amour par la femme. Mais est-ce que tu étais conscient du fait de mener notamment un livre de cette ampleur-là avec un dialogue qui souvent est aussi, pas une facilité, mais quelque chose sur lequel on peut se reposer pour rythmer son texte ? Est-ce que c'était une contrainte que tu avais envie d'explorer ? Enfin, qu'est-ce que pouvait recouvrir tout ça en termes d'écriture, strictement ?
Le fait de prendre un personnage qui ne parle pas, je ne l'ai pas envisagé comme une contrainte. J'ai fait ça parce que pour moi, il y avait une logique là-dedans, dans l'histoire et dans ce qu'est ce personnage, dans la nature même de ce personnage. Voilà, j'ai senti assez vite qu'il devait ne pas parler et que c'était pas plus mal. Et du coup, donc, qu'est-ce que ça apporte, enfin, ou qu'est-ce que ça m'apportait à moi en tout cas, ça me... Alors, d'une certaine façon, c'était une contrainte, oui, mais en même temps, contrainte qui... Moi, j'aime bien, voilà, explorer des choses différentes. Donc, je trouvais que c'était intéressant de trouver d'autres manières de s'exprimer, de faire s'exprimer ce personnage. À partir du moment où il n'a pas la parole, ben tout ce qu'il ressent, tout ce qu'il pense, tout ce qu'il veut faire passer d'une certaine façon, il faut le faire passer autrement que par les mots. Donc voilà, c'est développer d'autres choses que le langage, en tout cas pour ce personnage-là. Donc ça... Voilà, je sais pas exactement. Enfin, il y a plusieurs choses. Il y a les regards, l'attitude, le comportement, les actes qui sont importants, parce que voilà, c'est un personnage qui est, en tout cas au départ, assez innocent, assez intègre. Et du coup, le fait de mettre en avant ces actes, c'était bien, parce que je pense que les actes, souvent, sont moins mensongers que les paroles. Donc lui, comme de toute façon, il ne peut pas mentir par la parole, on le voit agir, quoi. Voilà, on le voit agir, et en fonction de ce qui... Il y a cette forme d'innocence, de pureté, de vérité, de sincérité qui ressort, du coup, je trouve, par les actes notamment, puis par les regards, puis par pas mal d'autres choses, quoi. Donc voilà, je trouvais du coup que c'était intéressant. Et en même temps, en effet, il y a quand même beaucoup d'autres personnages qui vont graviter autour de lui, autour du garçon. Et du coup, ça, eux parlent, par contre. Et du coup, ça laissait aussi pas mal de place à ces personnages-là, voilà, à la parole de ces personnages, qui, du coup, est importante, puisque c'est le garçon va apprendre à travers eux, va se nourrir de tout ce qu'il va entendre, et notamment voilà, de certains personnages qui vont être très importants pour lui dans son évolution. Et ça passe beaucoup par la parole, par ce qu'on va lui raconter. Voilà.
Cette éclosion du garçon, donc qui n'a jamais connu le monde, n'a jamais connu les hommes, va se faire en plusieurs étapes. Elle se fait déjà... Il arrive dans un... On devine qu'on est peut-être quelque part en Camargue, ou en tout cas peu loin des lieux où toi tu résides.
Ouais.
On le voit arriver d'abord dans un... petit village, on dirait, un village...
Un hameau.
Un hameau, voilà, plutôt paysan. Puis ensuite, il y a, on y reviendra, une découverte quelque part du mouvement et de ce qu'il y a derrière, en cheminant avec un bonimenteur, on pourrait dire, enfin un camelot quelque part, on y reviendra. Sur toute cette première partie du roman, en fait, il y a quelque chose. Par exemple, on est dans un village, on pourrait très bien être dans un village voilà, très 19e, etc. Mais par exemple, le chef du village a été marié avec une ancienne mexicaine, où donc il y a encore une sorte de... Voilà, il y a une sorte d'aura qui flotte. Le garçon appelle les gens, quelque part, il les ramène à des objets de la nature. Il y a l'homme chêne, l'homme... Il y a quelque chose de très... Alors, je sais que tu n'aimes pas ce terme, mais je persiste à l'utiliser. Il y a quelque chose de très chamanique, enfin, un peu biblique. Très, est-ce que tu étais conscient à l'écriture de ça ou pas du tout, quoi? Enfin, pour moi, c'est vraiment ce qui fait de rentrer dans le roman, et on verra, c'est quelque chose qu'on retrouve à la fin. Parce qu'il y a cette idée de chamanisme aussi, elle est quelque part dans le fait que le roman est construit de façon circulaire, on y revient à la fin. Enfin, je veux dire, pourquoi cette partie-là, au final, elle prend. Pourquoi tu t'es pas borné juste à avoir un village de péquenaud français du début du siècle, quelque part, quoi.
Ouais, bon, c'est vrai que je l'ai pas pensé comme ça, mais en même temps, je pense pas, moi, quand j'écris. Donc.
Othello, c'est un très bon conseil pour ceux qui veulent se lancer dans l'écriture. C'est vrai, en plus.
Pour moi, c'était plutôt. Parce qu'en fait, donc, la trajectoire, si on peut dire, du roman, c'est donc le. Ce jeune garçon qui part lorsqu'il a 14 ans et qui, comme tu l'as dit, qui est un enfant quasi sauvage au départ, qui n'a jamais côtoyé d'autres êtres humains que sa mère. Et son parcours, si on peut dire, ça va être d'essayer de devenir un homme, tout simplement. Enfin, simplement. D'essayer de devenir un homme. Donc ça va se faire, je voulais que ça se fasse tout doucement, pas à pas, étape par étape. Et effectivement, sa première confrontation avec les hommes, ça va être donc dans ce hameau où il y a 13 habitants exactement. Donc c'est un tout petit hameau. Et à ce moment-là, le garçon est encore très très proche de la nature. Voilà, je dis souvent qu'au départ, il est plus proche du règne animal que de l'être humain. Et là, il est encore très proche de ça. Donc effectivement, quand il voit pour qualifier les personnes qu'il voit, il les rapproche de ce qu'il connaît, de ses références à lui. Donc oui, il va y avoir l'homme chêne, l'homme serpent, enfin, ou la femme serpent. Enfin voilà, ses références à lui, c'est ça. Ce qu'il a connu jusque-là, c'est ça. C'est des animaux, tous les éléments de la nature, etc. C'est tout ce qu'il a, quoi. Donc, il se raccroche encore à ça. Et dans cette relation, si je peux dire, qu'il y a avec la nature, justement, il y a aussi cette espèce, peut-être, juste de choses qui sont de l'ordre de la croyance, de l'ordre du mystérieux, de l'ordre du symbolique aussi, quelque part, effectivement, qu'il va retrouver à la fin, à la toute fin, dans les contrées amazoniennes, au sein des tribus, et qui se rapproche de ça, oui, qui est un rapport avec la nature, avec certains éléments qui ne sont pas passés, justement, encore par ce qu'on appelle la civilisation, quoi. Il est encore à la frontière de ça. Et avant d'atteindre cette civilisation, cette forme de civilisation, il y a encore ces relents, si je puis dire, de choses plus ou moins surnaturelles parfois, ou qui semblent surnaturelles quand on n'a pas les outils pour les analyser, quoi, pour les comprendre.
Est-ce que je peux te demander de lire encore un peu ?
Ah non, non, c'est fini. Là.
Est-ce que je peux le lire, hein ?
Ouais.
Veine, Esguian, Orpierre, Saléon, Le Poète, Tresléou, Sainte-Colombe, Esparon, Serre, Embrun, Buissard, Crévoux, Arvieux, Saint-Crépin, Les Ors, Rossan, Talard. Ils vont de place en place. Brabec connaît toutes les dates et tous les lieux de foire et de marché, et il semble qu'en chacun de ces lieux, il soit connu de tous. Résultat de 20 années et plus de pratiques. Sans compter que sa gueule ne s'oublie pas. Des liens ont été tissés. Il est passé hier, il repasse aujourd'hui, il repassera demain, et ceci jusqu'à ce qu'un mauvais vent l'emporte et qu'on puisse affirmer avec certitude « Brabec n'est plus, ce jour viendra ». Roibon, Vinet, Biolle, Saint-Ismier, La Verpillière, il décampe avant l'aube. Somnolent côte à côte sur le banc du coche, cahotant, dodelinant du chef. Le toit fait au vent et deux falots y pendent, qui n'éclairent guère plus loin que la croupe du Hongre. Les guides sont lâches entre les doigts de Brabec. Le cheval sait où il va. Lui aussi est déjà passé par là et s'en souvient. Par les chemins obscurs, il suit ses propres traces. Son pas est lourd, mais non dépourvu d'élégance, son côté féminin sans doute. Un nom tombe de la bouche de l'ogre, leur prochaine étape. Chabon, la tour du pain, Le Gars, Tulins, Échirol, Pontcharra, Bilieu, Kroll. Il a la carte dans la tête, il refait son Amérique à moindre échelle. Quittant ce village, donc il rencontre un personnage un peu qui va aussi quelque part prendre la place du père, qui est une très forte ambivalence entre son aspect, on peut dire quasi monstrueux, enfin donc ogresque en tout cas. Donc c'est quelqu'un qui fait le tour de, je sais pas quel déterminant tu lui donnes exactement, mais quelqu'un qui fait le tour des foires où il fait des épreuves de force.
C'est un lutteur de foire.
Voilà. Et le garçon devient quelque part son assistant. Et après avoir quelque part découvert l'homme, il découvre d'abord la France, le pays, le mouvement en fait. Et aussi, puisque ce Brabec est aussi d'or sur des piles de livres, la lecture, la culture. Je ne sais pas, ce personnage, je trouve, enfin, comment on construit un personnage comme ça, enfin, qui marche chez tous les, enfin, qui laisse une forte impression chez tous les lecteurs. Est-ce que c'est juste quelque part, me prend pas mal, mais une sorte de parodie du Dr Jekyll et Mr Hyde, quelque part de la brute qui est cultivée, ou de la Belle et la Bête, ou est-ce que c'est parce que ça fait appel à quelque part une mythologie littéraire déjà en place, ou
Certainement qu'il y a une. De toute façon, derrière tous les textes qu'on écrit, il y a des influences, il y a des choses, la plupart du temps inconscientes. Donc, c'est le genre de personnage qui moi, m'attire, me plaît. Cette ambivalence, comme tu dis, entre l'aspect qu'on peut avoir et puis ce qui est renfermé à l'intérieur, m'intéresse. Et puis en même temps, il y a ce côté, je trouve pas le mot. Moi, je voulais aussi que ce roman soit un roman d'aventure, tu vois. Donc, dans un roman d'aventure, il y a des personnages comme ça qui sortent de l'ordinaire.
Plus grand que nature, en fait.
Exactement. Des personnages plus grands que nature. Et voilà, j'avais envie de ça aussi. J'avais envie qu'il y ait un souffle et qu'il y ait un élan comme ça. Et c'est aussi donné par les personnages qui apparaissent. Donc, il y aura Emma plus tard pour toute la partie amour, romantisme, exaltation, etc. Là, il y a ce personnage qui s'appelle Brabec, donc qui est effectivement une espèce de, physiquement de monstre, qui est un lutteur qui va donc de village en village comme ça avec sa roulotte et qui va prendre le garçon sous son aile. Sans doute parce qu'il est, c'est aussi un personnage solitaire qui va rencontrer un autre personnage solitaire. Et donc quelque part, le garçon représente sans doute aussi l'enfant que ce lutteur n'a jamais eu et qu'il n'aura jamais, et à qui il a envie, besoin de donner quelque chose, quoi, de léguer quelque chose, et en l'occurrence de léguer non des biens matériels, mais plutôt des biens spirituels, si on peut dire. Et c'est-à-dire, en fait, de lui raconter sa vie, parce qu'il a eu une vie assez riche. Il est plutôt sur la pente descendante, maintenant, de sa vie. Et c'est aussi pour ça qu'il a peut-être besoin de ce témoin-là, quoi, qu'il reste quelque chose de lui aussi. Et donc il lui parle beaucoup, il lui apprend beaucoup de choses. C'est un... Dans son genre, c'est un philosophe, Brabec, et quelqu'un d'assez cultivé, en effet, puisqu'il a beaucoup lu, etc. Donc, il va apporter énormément de choses au garçon, et des choses qu'on ne lui avait jamais encore données jusqu'à présent. Donc, c'est un personnage que j'aime beaucoup, en effet. Il y a une espèce de faconde aussi chez lui, entre le personnage du garçon qui parle pas et lui qui a une facilité de langage et je trouvais le contraste intéressant aussi, donc j'aime bien les personnages
Oui, entre un personnage qui, du garçon qui est pour le moment en retrait, qui est en observation, et Brabac qui est encore, pour un temps tout du moins, à prendre le monde par les bras, enfin, entre ses bras, quoi, hein, le serre entre ses bras. Donc pour un temps, effectivement, parce que comme tu le disais, Brabac est plutôt sur la pente descendante, il se trouve sans déflorer l'histoire que voilà, le garçon se retrouvera seul avec cette roulotte. On a l'impression qu'il a appris à connaître le monde, connaître les hommes. Il le reproduit quelque part un petit peu, il essaie de se réinventer une vie quelque part dans le sillage de celle de Brabec, jusqu'à ce que, bon, après je ne vais pas refaire la formule, mais c'est vrai que voilà, les ennuis arrivent, et les ennuis arrivent forcément par une femme. Un accident, il se trouve renversé, et une femme rentre dans sa vie.
Les ennuis et toute la beauté.
Bien sûr.
Ouais, ça va avec. en effet, après il va faire la rencontre de Emma. Donc c'est une jeune femme qui s'appelle Emma, qui vit avec son père, qui est aussi une jeune femme qui a une forte personnalité. Voilà, une jeune femme qui est à la fois de son temps et en même temps qui a des idées un peu avancées par rapport à, disons, à la condition féminine au début du XXe siècle. Et ça va être une... Tout de suite, même si leur relation évolue au fil du temps entre le garçon et Emma, mais il y a tout de suite quelque chose qui se passe entre ces deux êtres. Et forcément, voilà, ça va donner quelque chose de très passionnel, de très charnel aussi, de très fusionnel. Et donc là, c'est une autre partie encore que de ce qui constitue l'homme, peut-être, que va apprendre et intégrer le garçon. Voilà, tout ce qui concerne l'amour, les sentiments amoureux, puis tout ce qui va avec, quoi. Et aussi, en parallèle, comme c'est une jeune femme qui est plutôt ce qu'on appelle de la bonne société, disons, enfin, voilà, qui a un certain rang dans la société, elle est musicienne, ce qui est un élément important. Elle est musicienne et elle est férue de littérature, de poésie, etc. Donc elle va apporter au garçon tout cet aspect-là aussi, qui est l'art. L'ouvrir à l'art.
Et lui offrir ses mots.
Et lui offrir ses mots aussi, en effet. Donc voilà, tout ça va enrichir encore plus le garçon. Et finalement, peut-être qu'avec cette jeune femme, il va finalement atteindre une sorte de sommet dans son existence. Et de sommet dans l'existence d'un homme, dans ce qui constitue un homme, ou ce qui constitue l'humanité. Voilà. Ouais, une sorte de paroxysme de ce que peut faire l'homme, dans ce qui est bon, en tout cas. Je ne sais pas si c'est très compréhensible ce que je dis.
Non, mais comme je n'avais pas posé de question, c'est bien. cette rencontre, elle va se faire en deux temps. Enfin, il y a tout un temps qui se rend compte dans une sorte de maison de campagne où il passe un moment de l'année. Et puis après, il y a la ville, il y a Paris, il y a le chaos de cette ville de début de siècle. Alors, on n'a pas parlé depuis le début de la façon dont tu traitais le rapport au monde, à la grande histoire, parce que c'est quand même une période très chargée en termes historiques. Elle va avoir une importance forcément, puisque la guerre arrive. Et même si on a déjà parlé ensemble, j'aimerais bien te réentendre sur cette façon... Ce choix que tu as fait, de ne pas mêler la grande histoire à la petite histoire, mais ou à la petite histoire, c'est pas une façon de dire, mais à ton histoire, la matière que tu étais en train de travailler, en la séparant par chapitre et en la traitant simplement par lit, c'est-à-dire en ne prenant pas quelque part le lecteur pour un abruti, c'est-à-dire il sait qu'il se passe des choses, mais quelque part en lui montrant que malgré. Est-ce que c'est une façon de vouloir dire que malgré le chaos du monde, malgré la vie des grands, malgré les mariages consanguins de cette grande noblesse qui finira, comme tu le dis si bien, à un moment par laver son linge sale, mais pas en famille, et en faire 20 millions de morts. Est-ce que c'était une façon de montrer que malgré tout ça, la vie continuait et se créait dans les interstices, enfin, comment est né ce dispositif de vouloir traiter par des chapitres séparés dans le roman, par des listes, les événements historiques, pour revenir après à ton histoire? Comme si tu avais voulu écarter la rumeur du monde, la mettre un peu au loin en écho.
C'est surtout que je voulais rester très proche du garçon. C'est-à-dire que je voulais vraiment rester auprès de lui. Dans le cinéma, on dirait un plan rapproché, tu vois, et on ne quitte pas le personnage, ou quasiment pas le personnage. Et effectivement, on sent plus ou moins, on peut sentir plus ou moins ce qui se passe autour, mais qui d'une certaine façon ne l'atteint pas ou pas vraiment. En tout cas, puisque voilà, puisqu'il y a la montée de tout ce qui va amener à la guerre de 14, mais en même temps qu'il y a cette montée-là, autour, il y a, eux, ils sont d'une certaine façon un petit peu dans leur bulle, Emma et le garçon, puisqu'ils vivent leur amour et leur bonheur de plus en plus. Alors, je ne voulais pas, justement, donc, quitter, eux, pour faire intervenir des événements extérieurs, je sais pas, ça me plaisait pas, ça me marchait pas, j'avais pas envie quoi. Mais j'avais quand même envie de rappeler de temps en temps quand ça se passe, à quelle période ça se passe et certaines choses quoi qui me semblaient importantes ou intéressantes à rappeler. Donc effectivement, j'ai choisi un petit peu ce processus-là, cette forme-là d'insérer de temps en temps entre l'histoire, enfin pendant l'histoire du garçon, d'insérer de temps en temps d'espèces de listes de choses qui se passent selon les années. Donc ça peut être des événements historiques relativement connus, etc. Comme ça peut être aussi d'autres choses qui se sont passées, qui se sont déroulées pendant cette année-là et que j'ai choisies parce qu'elles me semblaient quelque part représentatives aussi d'un certain esprit. Il y a pas mal de petites allusions, par exemple, au mouvement ouvrier ou au mouvement anarchiste, voilà, au mouvement féminin aussi, voilà, toutes ces revendications qui se mettent en place aussi d'un peu partout. Et puis il y a d'autres choses qui sont plus anecdotiques peut-être, qui font partie du quotidien. Quand voilà, l'invention de la première machine à laver ou... Parce que c'est important aussi.
Ouais,
Et voilà, donc il y a plusieurs choses comme ça. Donc ça m'a permis de resituer, si tu veux, l'histoire dans le cadre, sans m'éloigner trop non plus des personnages principaux.
Alors pour revenir à la relation amoureuse entre Emma et le garçon, donc une relation amoureuse qui se passe quelque part avec, pas le silence, mais où il n'y en a qu'un qui en s'empare des mots, et pourtant les mots deviennent, à travers la passion d'Emma pour la littérature, à travers des jeux qu'il s'invente, l'un des ressorts de leur relation, mais aussi quelque part cette absence de mots fait que la relation au corps devient, si ce n'est plus prégnante, en tout cas de premier plan. J'aimerais sur ce passage-là, il va me tuer là, je suis sûr. Lire quelque chose qui est un peu plus tardif, qui sont les lettres. Plus tard, on verra qu'effectivement, le garçon part à la guerre. Et pendant ce temps-là, Emma lui écrit des lettres. J'aimerais lire une des lettres avant de te poser une question.
Mais vas-y donc.
Emma écrit : Mon amour, j'ai joui. J'ai joui en songe et j'ai joui en chair. Il était 4 heures de l'après-midi. Épuisé par une énième nuit sans sommeil, je me suis assoupi sur mon lit. J'ai rêvé. Dans mon rêve, nous étions dans ta roulotte, celle que tu conduisais lorsque nos routes se sont croisées. La roue n'était pas cassée et la roulotte roulait. Je ne sais pas qui tenait les rênes car nous étions tous deux à l'intérieur. On entendait cliqueter les sabots du cheval et l'on voyait les arbres défiler à travers les rideaux. L'ombre des arbres. Il faisait beau et chaud. Nous étions nus dans l'alcôve et notre corps transpirait. J'ai reconnu le grain de ta peau. J'en ai reconnu le goût. Tu étais allongé sur le dos et ton sexe était dressé, il était tendu et gonflé et tu me l'offrais, tu attendais que je le prenne. Ton sexe, ta hampe, ton dard, pour moi. C'était une offrande et c'était un commandement. Prends, je le lisais dans ton regard. J'y voyais la fierté, l'impatience, la fébrilité et cet éclat plus dur qui brille dans les yeux de celui qui exige et qui ordonne. Prends. Oui, maître, oui, mon prince, oui, mon amour. J'ai obéi. Je me suis penché et je l'ai pris. Dans ma bouche, ton pieu, ton glaive. Je l'ai glissé dans le fourreau de mes lèvres. Je l'ai fourbi et poli. Je l'ai léché, je l'ai enrobé et tété. Je l'ai aiguisé. Car tout ce que je faisais, en réalité, c'était de le préparer à me pourfendre. Qui commande, crois-tu? Qui exige? J'ai forgé ta lame au feu de ma bouche et puis je me suis empalé. Prends. Je te jure que j'ai cru mourir. La merveilleuse, l'extatique mort, la sublime brûlure. Tu m'as transpercé, tu m'as rempli. Jamais, il me semble, tu n'avais pénétré aussi profond en moi. La roulotte continuait d'avancer, elle cahotait doucement sur le chemin et le paysage défilait. L'ombre, le soleil, l'ombre. Qui conduisait? Personne. Nous deux. Je te chevauchais et tu me transportais. Et c'était un voyage que nous pouvions faire qu'ensemble, toi et moi, amants et amantes, maîtres et maîtresses, esclaves l'un de l'autre, unis, enchaînés par d'intrinsèques et d'indéfectibles liens, tels le nuage et l'eau, tels le soleil et l'ombre, et le voyage approchait de son terme, je le sentais venir, l'éblouissement, le formidable bouleversement de la matière et de l'esprit, le miraculeux chaos, je le sentais monter, monter. Il y a quelque chose qui est... voilà, il y a forcément, il y a plein d'autres passages sur ce rapport où, en fait, le mot prend une place très importante dans leur rapport physique. Et voilà, je laisse les gens qui n'ont pas lu le livre le découvrir. La question est peut-être un peu plus...
Excuse-moi, ouais. Je te coupe, mais parce qu'il joue aussi. Il y a une notion de jeu qui est très importante entre ces deux-là. Ils sont jeunes, ils découvrent, parce que le garçon découvre l'amour, le sexe, etc. Mais Emma aussi, d'une certaine manière. Enfin, pas d'une certaine manière, elle découvre aussi. Donc, ils découvrent ensemble. Et c'est quelque chose de joyeux, quoi. C'est quelque chose de... Tu vois, c'est pas... Et encore là, on est déjà plus tard, effectivement, pendant la guerre, avec les lettres qu'elle lui écrit. Donc, il y a quelque chose déjà d'un petit peu plus grave, d'une certaine façon. Mais au début...
Oui, parce que ces lettres, on en parlera, viennent ponctuer des récits quasi mortifères de la guerre des tranchées. Donc forcément, elles apparaissent, là, je vous la lis comme ça peut paraître, mais elles apparaissent entre deux scènes où les gens sont coupés, découpés en morceaux. Donc forcément, elles viennent comme une sorte d'espoir et de respiration vers l'infini et l'idéal qui est... Voilà.
Voilà. Et donc, j'avais vraiment envie que ça se passe d'une manière... pétillante cette relation aussi, enfin voilà, un peu, ouais, qui est de la joie là-dedans. Et d'ailleurs, j'ai essayé d'une certaine manière de justement d'accorder l'écriture à ça, parce que une chose qu'on n'a pas encore dite, c'est que j'ai essayé de faire en sorte que l'écriture évolue au fur et à mesure, en même temps que l'évolution du garçon justement. Pour qu'elle soit le plus près possible, qu'elle témoigne le mieux possible de son bouleversement à lui, de ce qui évolue chez lui, de ce qui change, etc. Et donc, dans cette période où il est avec Emma et où il découvre l'amour, le plaisir, tout ça, je voulais que ça qu'il y ait
un foisonnement.
Une forme de foisonnement, de... une espèce de feu d'artifice aussi, quoi. Donc la langue est beaucoup, voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de mots, c'est pour ça qu'il joue avec les mots, c'est pour ça que, alors ça, c'est d'autant plus intéressant que Emma est aussi une amoureuse des mots, donc elle, ça va encore plus dans ce sens-là.
Se mettre dans la psychologie féminine lorsqu'on est un homme, c'est déjà une première difficulté. Comment on se met dans la sexualité d'une femme lorsqu'on est un homme et qu'on écrit?
Je ne sais pas si je peux raconter tout ça ici.
Je ne sais pas. Peut-être que ce n'est pas quelque chose qui t'a posé problème. Peut-être que tu as le droit de dire que ce n'est pas une interrogation que tu t'es posée. Je ne sais pas, quand on est un homme, j'ai l'impression que les femmes qui écrivent ont beaucoup plus de facilité quelque part à percer les hommes à jour. Mais il n'y a pas que celles qui écrivent, au final, c'est au quotidien. Mais c'est très dur de pas faire un personnage féminin qui sonne faux et encore... plus dur, j'ai l'impression, de ne pas faire un personnage qui sonne féminin qui sonne faux lorsqu'on est un homme dans son désir, dans sa sexualité. Et comment on traite ça? Enfin, peut-être que tu t'es pas posé la question, on va te dire que c'est devenu naturellement.
Bah, c'est pas que je me pose pas la question, mais en réalité, ce que tu demandes, ça, c'est le même problème pour tous les personnages. À partir du moment où ce n'est pas moi, je suis bien obligé d'essayer de me mettre dans la tête et dans la peau et dans l'esprit de chaque personnage. Alors ça semble plus compliqué quand c'est une femme. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit plus compliqué que de me mettre dans la peau d'un jeune garçon sauvage qui ne parle pas. Ou de me mettre dans la peau d'un vieillard homme. Tu vois, parce que je n'ai jamais été non plus encore un vieillard. Donc, comment savoir comment ça fonctionne, un vieillard, comment ça pense. Et ça fait partie des choses qui, non seulement m'intéressent, justement, puisque mon but quand j'écris des bouquins, enfin mon but, chose que j'aime que quand j'écris des bouquins, c'est pas de parler de moi. Ça m'intéresse pas de parler de moi. Ma vie n'a aucun intérêt pour les lecteurs, donc je vais pas les emmerder avec ça. Donc c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que ça me permet à moi de vivre d'autres vies que la mienne à travers ces personnages que j'invente et que je décris. Et donc du coup, voilà, rentrer dans la tête d'une jeune femme, y compris dans sa sexualité, etc. Oui, vu que si on le prend à froid comme ça, ça semble un peu peut-être difficile ou ça semble étrange, mais à mes yeux, pas plus que pour n'importe quel personnage finalement. Et ça demeure malgré tout assez assez mystérieux finalement cette histoire. Comment on fait pour décrire des personnages que l'on n'est pas, pour décrire d'autres personnes que l'on n'est pas, en essayant d'être le plus juste possible. Et je me suis rendu compte par le témoignage de certains lecteurs justement que ça pouvait fonctionner et ça me fait très plaisir et ça me rassure quand je vois ça. Je me souviens par exemple d'une fois où j'avais écrit une nouvelle sur un couple qui perdait un enfant. Cet enfant était assassiné, en fait. Enfin, un enfant qui avait 19 ans, 19-20 ans à peu près, qui était assassiné pour une broutille. Et donc la nouvelle racontait du côté des parents, une fois que le drame a eu lieu, ce qu'il advient des parents. Et donc c'est quelque chose qui ne m'est pas arrivé, heureusement, et j'espère que ça ne m'arrivera jamais, mais je me souviens donc que cette nouvelle avait été lue en public. Et à la fin de la lecture, il y a un couple qui vient vers moi et la femme était en larmes. Et donc j'ai compris, enfin ils m'ont expliqué qu'ils avaient vécu ce genre de drame et que ce qui était raconté, donc c'était, voilà, c'était exactement ça, quoi. Ce qu'ils ressentaient, c'était... Enfin, voilà, il s'était senti vraiment touché par ça parce que, a priori, j'étais tombé assez juste dans ce que les parents avaient ressenti et comment ça s'était passé, etc., etc. Et ça m'est arrivé à plusieurs reprises de décrire comme ça des personnages qui viennent de milieux que je ne connais pas du tout, etc. Et d'avoir le témoignage de gens qui, eux, connaissent bien, ont vécu ça, et ils me disent que ça se rapproche vraiment de ça. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a une part de mystère, quelque part, là-dedans. Comment je peux arriver à me rapprocher le plus possible de ce genre de choses que je n'ai pas vécues. J'ai une espèce de petite théorie là-dessus personnelle qui est qu'en réalité, je pense qu'on a tout en nous et que selon les circonstances de la vie, certaines choses ressortent. Et donc quand moi j'écris, quand je suis là-dessus et que je le fais pas consciemment, mais que je me glisse dans la peau de tel ou tel personnage, ben, y a certaines facettes qui ne seraient pas ressorties, si tu veux, dans ma vie réelle, qui vont à ce moment-là se déclencher peut-être et se mettre en place, quoi, et arriver à être assez juste finalement. Sinon, je vois pas. Puis il y a une forme d'empathie peut-être aussi qui fait que j'ai de l'empathie pour tous les personnages principaux, pas principaux, les gentils comme les soi-disant salauds en tout cas. Voilà, j'ai une forme d'empathie pour eux qui fait que peut-être j'arrive à en être au plus près, quoi. Enfin, je sais pas, c'est ma théorie, mais j'en sais rien.
Tu parlais tout à l'heure de cette façon de faire évoluer la musique de ton écriture. Je parle musique parce que on est vraiment proche de ça, très proche de ça, selon quelque part le chemin du garçon. Arrive, on va dire, la dernière partie, vraiment le dernier tiers du livre, quelque part, où il est confronté à la guerre, il y a 14-18, où il est dans les tranchées. Comment tu as construit cette musique-là qui est vraiment très frappante, ou quelque part est aussi très casse-gueule, parce que ça a été fait 15 000 fois, ça a été fait plutôt bien par certaines figures historiques du roman français. Comment tu as construit cette musique-là ? Il y a vraiment là, le souci musical vraiment apparaît de façon assez flagrante. Tu travailles sur la répétition, sur le fait d'intercaler avec des respirations, ces lettres, enfin... Comment ça s'est construit, ça ? Tu as le droit de ne pas avoir envie de répondre et de demander une autre question.
Non, mais comme tu l'as dit, c'était effectivement une des grosses difficultés. Parce que, à partir du moment où j'ai compris qu'il y allait y avoir la guerre et que le garçon allait y participer, je commençais déjà à gamberger, à me dire ce que tu viens de dire là. C'est-à-dire, comment je vais bien pouvoir traiter ça ? Après tous ceux qui en ont parlé, après non seulement tous les romanciers qui en ont parlé, mais tous les témoignages, etc., qu'il y a pu y avoir là-dessus, encore plus ces dernières années. Donc c'était effectivement un truc qui me faisait assez peur. Le truc, c'est que quand on parle de la guerre, et essayer de trouver la bonne distance, c'est compliqué. Essayer à la fois de faire quand même vraiment ressentir ce que c'est que la guerre. Essayer de faire en sorte que le lecteur puisse presque toucher la douleur, la souffrance, l'épuisement, tout ce qui se passe, pour ces gens qui sont là à la guerre, en train de se battre, en train de s'entretuer, la peur, tout ça, quoi. Et en même temps, pas non plus tomber dans ce que ce soit que ça, parce qu'il n'y a pas que ça non plus, il y a d'autres choses. Et puis il y a parlé des événements, il y a parlé en même temps de l'intérieur de ceux qui participent à ces événements. Donc il y a plein de trucs difficiles. Donc bref, j'ai fait comme j'ai pu, quoi.
Ça marche pas mal, hein.
Ouais.
Ça marche, rassure. Il y a un bout que j'aime bien, j'ai déjà lu, mais c'est pas grave, je vais encore le relire, peut-être que je le lirai mieux.
Vas-y.
Le mieux est de tenir l'esprit à l'écart et de laisser faire le corps, le corps seul, muscles et membres. Les jambes qui portent, les bras qui tirent, qui lancent, le cœur qui pompe, les réflexes, l'instinct. Mais se faufile parfois cette pensée qui n'est à peine une, insidieuse, à fleur de conscience et qui confine à l'orgueil. Cette pensée qui dit « je suis immortel ». Les autres tombent, mais pas moi. Mes camarades, mes frères, mais pas moi. Je suis plus fort, je suis plus rusé ou je suis plus chanceux. Je suis l'élu, je serai le dernier. Je serai le seul peut-être, mais la balle, l'obus, l'éclat mortel ne peuvent pas m'être destinés. Ce cadavre dont se répéteront les rats ne peut pas être le mien. Cet affreux pantin disloqué, défiguré, non. Cet innommable amas de viscères, cette chose inanimée, non. Non, pas ici, pas comme ça, pas moi. Et quand brusquement cette croyance s'éteint, soufflée comme la flamme d'une chandelle, quand l'illusion se brise et vole en éclats, ce qui la remplace est l'exact contraire, la certitude qu'on n'y coupera pas, qu'on ne sortira pas vivant. Je vais mourir, voilà. La foi aveugle s'est heurtée de plein fouet au mur de cette funeste révélation. Eh bien, tant pis. L'écœurement, le dégoût nous submerge. On accepte, on se résigne. Marre, 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 la lassitude, le renoncement, et puis la colère, soudain. Crève, charogne, l'ultime sursaut de rage. Crève, puisqu'il doit en être ainsi. Enfin, on ne pense plus. On fonce. Le corps seul nous porte à la rencontre de notre destin. On court, on court. Jamais on n'a couru avec autant d'ardeur vers la mort. Crève, salaud, crève, ordure, crève. J'aime bien ce passage parce que, à part peut-être la fin, crève, salaud, etc., on a l'impression que c'est comme ça que tu as abordé l'écriture de tout ce passage de la guerre. Quelque part, à un moment, en fonçant, souvent. Ça ne veut pas dire que c'est fait à la va-vite. Hein. C'est
ouais, non,
une
non,
sorte de rythme très moderne. Et...
Effectivement, après, y a, comme je disais tout à l'heure, plus ou moins en plaisantant, il y a un moment où il ne faut plus trop réfléchir. Quoi.
Ouais,
et là, en l'occurrence, j'essayais de me mettre dans la tête de ces types. C'est quand même incroyable quand on y pense. Enfin, je ne sais pas, moi, ça me semble incroyable. Ces types donc, qui sortent de leur tranchée à pied, comme ça, avec leur fusil à la main, pourris, fatigués, et qui ont les autres en face, quoi, à 50 mètres d'eux, et qui savent, qu'ils vont crever, quoi. C'est, qu'est-ce qui peut bien les pousser à y aller? C'est quand même, je sais pas, moi ça me fait drôle. Qu'est-ce qu'on peut bien penser dans ces moments-là, si on pense justement? Est-ce qu'on essaye de pas penser? Est-ce qu'on laisse juste, le corps faire? Les jambes courir et puis le et puis voilà quoi, je sais pas, c'est des questions aussi qui viennent comme ça
sur cette fin, le retour de la guerre qui forcément avec ses traumatismes fait que notamment la relation à Emma ne sera plus jamais la même, et ce garçon qui va se retrouver seul à un moment parce que cette femme va disparaître. Il y a quand même toute cette question qui est tout au long du livre de... On n'arrive pas... Ce qui est assez beau dans ce livre, vraiment très, enfin, notamment, parce qu'il y a plein de choses, mais vraiment ce qui est très, vraiment très beau dans ce livre, c'est qu'on n'arrive pas à savoir si c'est un livre pessimiste ou optimiste, même à la fin. C'est-à-dire qu'il y a cette question de... Voilà, qui est vraiment la base de qu'est-ce que c'est qu'être un homme. Et comme tu l'avais dit la fois, on s'était rencontrés, est-ce que ça vaut le coup d'être un homme? On sent bien que cette question traverse le livre, mais la réponse n'y est pas apportée quelque part, quoi. Et
la réponse, chacun à chacun de se la faire, hein, si tant est qu'il y en ait une, d'ailleurs.
Parce que même dans cette fin, donc sans la raconter, donc effectivement, il part en Amérique du Sud, où quelque part il retrouve un retour à la nature, qu'il fuit cette Europe, voilà, qui a été ravagée et par la modernité et par les guerres. Et, retour originel, enfin à la beauté originelle du monde, mais toujours avec ses cauchemars, avec ce passé qu'il n'oubliera jamais, avec. Mais je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, enfin il n'abandonne pas quoi, même malgré le poids, malgré le bagne, parce que ça passe par là aussi forcément.
Je sais pas s'il abandonne pas. Il y a un moment où, enfin. Il y a un moment où je pense qu'il se retire quand même du jeu. Et
Bah, t'es pessimiste en fait. Quoi.
C'est pas moi, c'est lui. Je suis pessimiste. Il faut quand même y aller fort pour être optimiste, je trouve, moi, sur l'avenir. Mais ouais, pourquoi pas. On est capable de tellement de choses, y compris du meilleur parfois. Donc pourquoi pas.
Moi, je trouve vraiment pas que ce soit un roman pessimiste. Il y a une sorte de
fin
originelle. Ouais,
on s'en fout de ce que je pense, moi.
C'est ouais, de toute façon, les lecteurs comptent. Merci de votre présence. On espère qu'on vous a donné, en tout cas, de lire ce qui est, parce que c'est toujours un peu... C'est vrai que ce soir, d'habitude, j'ai dit qu'on parlait plus... J'ai beaucoup parlé d'histoire. Je t'ai fait beaucoup parler d'histoire ce soir, quoi.
Bah, j'espère qu'on n'en a pas trop dit non plus.
Mais en fait, non, mais parce que c'est, voilà, c'est un livre qui brille par
son... C'est un chef-d'œuvre, quoi, faut le dire, voilà, c'est tout.
Pas... Qui brille par son travail stylistique et sa musique. Voilà, c'est un livre qui emporte. Et des livres qui emportent, qui vous permettent d'être à la fois... C'est un livre qui permet à la fois d'être ici, et d'être ailleurs. Voilà, je pense que c'est le pouvoir de la vraie littérature, de la bonne littérature. Donc si vous ne l'avez pas lu, n'hésitez pas. Voilà, c'est le plus beau roman de la rentrée. Merci en tout cas d'être venu.
Merci Romuald, merci à vous.